vive inquiétude qu'on n'a pas sentie depuis longtemps quand ils évaluent ce qui se passe dans la région de Kharkiv.
Oui, tout à fait, mais parce que pour deux raisons. Alors, je pense qu'il faut toujours reconsidérer la raison politique. Le président Zelensky a intérêt aussi, et les généraux a appelé à l'urgence de la situation pour presser les Occidentaux et en particulier les Américains à accélérer l'aide promise. Et puis il y a aussi une logique, c'est que ça fait un moment maintenant, ça fait plus d'un an que les Ukrainiens n'avaient plus été en situation défensive depuis la reprise de Kherson en novembre 2020. Ils n'avaient plus été en situation défensive. Donc, je pense aussi qu'il y avait une habitude chez eux. Il y avait eu des grands espoirs à l'été dernier sur cette contre-offensive qui devait amener à la défaite russe. Donc, il y a aussi un principe de réalité qui se pose et qui rappelle à l'Ukraine que cette guerre est difficile et que quand c'est pas eux qui sont à l'offensive, eh bien, forcément, ils subissent.
Monsieur Fouillet, donc, vous ne voyez pas de scénario où les lignes pourraient tomber côté ukrainien et que la percée des Russes soit totale.
Non, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est dans une caractéristique de ce conflit qu'on appelle un blocage tactique. D'ailleurs, l'ancien chef d'état-major des armées ukrainiennes, Zaloujny, en avait parlé dans un article célèbre, d'un interview célèbre à The Economist, il y a quelques mois. En fait, ça veut dire que il peut y avoir des avancées de part et d'autre, mais elles seront toujours localisées. Elles peuvent être symboliques, la chute de Kherson, comme la chute de Kharkiv éventuelle serait symbolique, mais il n'y a pas de percée décisive. Tout simplement parce que chaque avancée est très coûteuse en moyens. Là, les Russes avancent un petit peu, mais ils ont perdu énormément d'hommes, de matériel, comme ils l'ont fait à Avdiivka, comme les Ukrainiens eux-mêmes avaient perdu énormément de moyens en reprenant Robotyne. Donc, il peut y avoir des avancées, mais un effondrement total, ça paraît de plus en plus compliqué, tout simplement parce que les adversaires s'épuisent et que ce blocage tactique confine les résultats à des dimensions uniquement tactiques, pas stratégiques ou pas politiques.
Monsieur Zelensky a pressé les alliés américains, surtout, d'accélérer la livraison d'armes. On sait que le Congrès américain a finalement donné le feu vert à une aide militaire, monétaire à l'Ukraine. À quel moment, vous pensez, est-ce qu'on va voir des effets concrets de ces livraisons sur le terrain?
Alors, il devrait arriver, mais bon, c'est difficile d'être très précis. Il devrait arriver dans les prochains jours, les prochaines semaines. Le commandant des forces américaines en Europe a dit il y a quelques heures que, ces livraisons massives allaient arriver. Les effets concrets, ils vont quand même mettre un peu de temps à se matérialiser parce que, en fait, même si on livre les munitions qui manquent, il faut ensuite, retrouver une certaine efficacité, tout remettre en marche. Et on voit bien, et c'est pour ça aussi que le président Zelensky insiste pour cette aide, on voit bien que la rupture dans l'aide à cause des mois qu'ont mis ce nouveau paquet d'aide américaine à être voté ont été très préjudiciables pour l'Ukraine parce que comme ce conflit est un conflit qui s'inscrit dans la durée, c'est la capacité à livrer continuellement des stocks qui fait que vous pouvez maintenir correctement vos positions. Et donc, surtout, l'urgence, c'est bien sûr ces livraisons immédiates dans les prochains jours, les prochaines semaines, mais c'est aussi la pérennité. C'est pour ça que l'enveloppe a été si importante avec plus de 60 milliards. C'est pour ça aussi que le président Zelensky essaye de motiver aussi les Européens à continuer et à tenir bon et à livrer dans la durée.
Monsieur Fouillet, est-ce que voyez-vous un scénario où les Ukrainiens pourraient éventuellement gagner, repousser l'envahisseur russe et être en mesure de déclarer la victoire?
C'est très difficile à dire. Et comme je vous décrivais précédemment ce blocage tactique, il est présent des deux côtés. En plus, vous avez un phénomène qui n'était pas présent il y a un an et demi, mais qui est présent aujourd'hui. Toute la ligne s'est profondément fortifiée. Donc ça a été d'abord les Russes avec la fameuse ligne Souvorikine. Maintenant, c'est les Ukrainiens qui construisent des lignes fortifiées. Donc déjà, c'est difficile de progresser. En plus, des deux côtés, on reconstruit des fortifications, on construit des tranchées. Donc non, c'est très difficile. Il y a vraiment un épuisement et des capacités qui progressivement s'amenuisent des deux côtés, et notamment chez les Ukrainiens qui sont dépendants de l'aide occidentale. Donc on le voit, quand elle n'arrive pas, c'est très compliqué. Non, on est vraiment dans une situation de blocage et finalement on retrouve les fondements de la guerre. Quand la victoire paraît impossible, le succès militaire s'éloigne, c'est les considérations politiques qui reviennent et on voit bien tous ces appels d'un côté comme de l'autre, les alliés des uns et des autres, à la négociation aussi. postuler une victoire totale ukrainienne militaire à court ou moyen terme paraît quand même très, très difficile.
J'aimerais vous entendre sur les récentes déclarations d'Anthony Blinken, qui est le chef de la diplomatie américaine, le ministre des Affaires étrangères. Et il a ouvert pour la première fois la porte à ce que les Ukrainiens utilisent des armes américaines pour frapper dans le territoire russe. On sait que les Américains avaient de gros scrupules là-dessus. Et, je le cite, « n'avons pas encouragé ou favorisé les frappes hors d'Ukraine, mais en fin de compte, c'est à l'Ukraine de prendre ses décisions sur la manière dont elle mène cette guerre. » Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que plus cette guerre dure, plus les lignes rouges ou ce qui semblait être les lignes rouges du conflit s'amenuisent. En fait, c'est pas tant une nouveauté que finalement la consécration de ce qui s'est fait au tout début du conflit. Il faut se rappeler qu'on voulait pas livrer d'armement autre que défensif, même avec la problématique de qu'est-ce qu'un armement défensif. Puis après, on voulait pas livrer des chars parce qu'on avait peur de l'escalade, puis pas des avions. On voit que fondamentalement, plus cette guerre dure, plus ce qui semblait impossible devient possible parce que, tout simplement, les tabous qui étaient, par exemple, frapper Moscou, frapper Russie, avec les drones, les Ukrainiens l'ont déjà fait. Donc, c'est une sorte un peu de résignation. La normalité d'hier devient la normalité d'aujourd'hui. Et ça favorise quand même l'escalade. Donc, en fait, faut l'interpréter à la fois comme un constat, un état de fait. Les Ukrainiens frappent déjà le territoire russe. Donc, ils le frappent avec tel type d'armement ou tel autre, fondamentalement. Ça change le degré, mais pas la nature. Par contre, on voit bien que plus ce conflit avance, plus il est dans l'escalade et dans le jusqu'au-boutisme des deux côtés, puisque à chaque fois qu'on se dit cette fois on n'ira pas plus loin, fondamentalement, quelques mois plus tard, on revient sur ce qu'on avait dit.
Merci d'avoir pris le temps. C'est très éclairant, M. Fouillet. Je souhaite une bonne soirée.
Merci
en France. C'était Thibault
Merci.
Fouillet. Salut. Thibault Fouillet, qui est directeur scientifique à l'Institut d'études de stratégie et de défense à Lyon. Au retour, on retourne en France. On va aller parler avec Catherine Beauchamp. Elle est à Cannes.
Consommer encore plus de ces fixes, c'est faisable et c'est facile. Pour consulter toutes nos nouvelles et nous écouter en direct, consultez directement notre site internet, cfixrimouski.com. Mais ce n'est pas tout. Pour les concours et entrer en contact avec nous, allez sur notre page Facebook, les fans de CFX 93 Rimouski. Pour être informé dès que nous obtenons une information, rendez-vous sur notre compte X, CFX FM 93. Et simplement pour avoir des nouvelles de l'équipe, rendez-vous sur Instagram au CFX FM 93. Qu'est-ce que vous attendez pour nous suivre?
CFIX FM 93. Vos idées en liberté. Faites-vous votre opinion. Des animateurs de talent, des chroniqueurs pertinents. Vos idées en liberté avec CFIX FM 93. Nouvelle régionale.
Voici vos nouvelles du 16 mai 2024. On connaît maintenant l'identité de l'homme d'affaires intéressé à acheter le club de golf Bic. Les quelques 300 actionnaires du club étudient aujourd'hui l'offre d'achat d'Éric Fournier, un Rimouskois d'origine qui a été associé à la réputée entreprise événementielle Moment Factory. Celle-ci a notamment travaillé pour Sony et pour les entreprises Disney. Selon Radio-Canada, M. Fournier a vendu ses parts de Moment Factory après y avoir été associé pendant 17 ans. Les actionnaires du club de golf doivent se prononcer sur l'offre d'achat déposée par M. Fournier aujourd'hui. Le conseil d'administration fournira plus de détails demain. Le Centre intégré santé et services sociaux du Bas-Saint-Laurent lance une offensive sans précédent dans la recherche de partenaires pour ouvrir de nouvelles places en résidence pour personnes aînées. Un appel d'intérêt de 130 places en ressources intermédiaires pour des personnes avec des besoins particuliers est lancé. La demande est grandissante. 4 MRC de l'Est du Bas-Saint-Laurent sont celles où les besoins sont les plus importants. Un premier appel d'offres a été réalisé pour 60 places dans l'Amitis, la Matanie et la Matapédia, soit 20 places pour des aînés en perte d'autonomie et 40 pour des personnes avec des troubles cognitifs. Les coupures de service annoncées de Desjardins à Sainte-Luce et à Saint-Gabriel, entre autres, font réagir à son tour le député de Matane-Matapédia. Pascal Bérubé réitère que par ses décisions, Desjardins envoie un mauvais signal à notre région. Il rappelle que lors de la dernière vague de regroupement et de fermeture, Desjardins disait compenser ceux-ci par le maintien de points de service comme celui de Saint-Gabriel. Il se demande pourquoi cet engagement ne tient plus. Il ajoute que ces nouvelles annonces de fermeture envoient un message de désengagement de Desjardins envers la région. Certains citoyens devront parcourir près de 90 km pour avoir accès à des services. Et finalement, la trentaine de pêcheurs de crabes des neiges de la zone 17 sont satisfaits de la saison de pêche entamée fin mars. Plusieurs d'entre eux ont atteint leur quota et ont même déjà retiré leur casier hors des eaux du Saint-Laurent. Quelques autres sont en bonne voie d'atteindre leur ratio de cueillette et le feront dans les prochains jours. C'était Pierre Michaud pour vos informations. Nos nouvelles se trouvent sur cfxrimouski.com.
CFX 93, son équipe et le studio McDonald's. Un trio de champions. CFX FM 93. Art et spectacle. Le Québec maintenant. Voici Catherine Beauchamp.
Comment un empire meurt-il? S'effondre-t-il en un seul et tragique instant? Mais il arrive un jour où son peuple n'y croit plus.
Ne laissons pas le présent détruire l'avenir.
Mesdames et messieurs, et chers enfants de tous âges, bienvenue.
On vient d'entendre un extrait d'un film très attendu, Mégalopolis. C'est un film de Francis Ford Coppola, une légende du cinéma américain. C'est lui qui a signé Le Parrain, Apocalypse Now. Donc, film très attendu, le film qu'il a voulu faire, semble-t-il, toute sa vie. 120 millions de dollars, presque tout financé de sa poche. Catherine Beauchamp, à Cannes, a vu le film. Salut, Cap!
Hey, bonjour, Pat. Financé à même la vente de son vignoble. Il a vendu son vignoble pour pouvoir se payer
Mon Dieu.
Son super film à 120 millions.
C'est payant, les raisins?
c'est payant, les raisins, mais écoute, le film le plus attendu est probablement la plus grande déception du Festival de Cannes cette année. Ça a été un bordel comme plateau de tournage. J'ai lu beaucoup sur ce qui s'est passé. C'était tourné à Atlanta. Il y a eu une enquête par le journal The Guardian, le média britannique, et on dit que c'était, il y a des gens qui travaillaient sur le plateau qui ont dit que c'était comme regarder un accident de train jour après jour pendant le tournage. Okay. C'était hyper complexe de travailler avec lui, toujours à la dernière minute, pas de préparation. On dit qu'il passait énormément de temps à fumer beaucoup de potes dans sa caravane, donc ne tournait pas. C'était des journées de tournage perdues. Il n'était pas capable d'exprimer ce qu'il avait, ce que lui avait en tête. Il a eu des chicanes avec l'acteur Shia LaBeouf, entre autres. Puis, tu sais, il disait des trucs aux gens. Là, comment pouvez-vous trouver à quoi ressemble le Mégalopolis? Je sais même pas moi-même à quoi ça ressemble. Fait qu'imagine comment les gens était dans le néant.
Quand on dira qu'il a, bon, 85 ans, mais il me semble que c'est une vieille attitude, tu sais, des plateaux qui connaissent des débordements de coups, on tourne plus longtemps, etc., etc. C'est très Apocalypse Now, tu sais, les années 70. Aujourd'hui, il me semble que c'est plus tight, comme on dit.
Ben, c'est ce qui s'était passé il y a 40 ans pendant le tournage, justement, de son film. Puis, tu sais, il a quand même remporté une Palme d'Or pour ce film-là. Le résultat avait été excellent malgré le brouhaha sur le plateau. Mais en plus de ça, Francis Ford Coppola débarque aujourd'hui parce que Le Guardian a sorti une histoire où il y avait une espèce de grosse scène de party qui ouvre le film. On dit que c'était à la Studio 54, plus ou moins, du Studio 54 des pauvres. Et lui, il se prenait sur le plateau et allait embrasser des actrices qui étaient seins nus. Et il avait demandé à des actrices de s'asseoir sur ses genoux. Alors, tu sais, on sait que le MeToo, le spectre du MeToo sur le Festival de Cannes, ben, je suis pas sûre que cette histoire-là passe bien, bien ce soir pendant qu'il présente son film.
Et pour être clair, quand il les embrassait, c'était pas là pour les besoins du film, c'était en marge du tournage.
C'était pendant les répétitions, puis il y a un producteur qui disait qu'il faisait ça pour expliquer l'ambiance qu'il voulait sur le plateau.
Okay.
Moi, je trouve ça un peu bizarre, là, des techniques de travail comme celle-là. Comme tu dis, ça fait un peu vieux producteur.
Cap, t'as vu Mégalopolis? Au-delà là, de toutes les circonstances du tournage, est-ce que c'est un bon film?
C'est un très mauvais film. Ça se passe dans un New York qu'on appelle post-catastrophe, qui a été rebaptisé comme le New Rome. D'ailleurs, c'est basé un peu sur... Il y a beaucoup de parallèles avec la fondation de Rome. Et on va explorer deux visions. Une qui est pour la reconstruction de la ville, une qui est celle de César, qui est un jeune architecte joué par Adam Driver, qui a gagné un prix Nobel. Il a créé un matériau révolutionnaire qui s'appelle Mégalon. Et cette vision-là est très utopique. Elle est confrontée à celle du maire qui s'appelle Franck Cicero. Donc, le parallèle avec Cicéron, qui est un homme d'État.
César, Cicéron, c'est pas très subtil non plus, là.
Non, c'est ça, tu sais, maire corrompu de la ville. Et puis, écoute, c'est comme tellement gros. Le scénario manque de clarté. On comprend rien. On se fout de ce qui se passe dans le film. J'ai failli m'endormir.